Yes, sir! Re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Et cette semaine, c'est un épisode qui m'excite particulièrement. On reçoit Alex Côté, qui est directeur chez Argon 18, avec qui on va parler des changements dans l'industrie depuis la COVID, comment l'industrie s'adapte aux tendances, comment l'industrie identifie les tendances, et on parle des tendances les plus sous-estimées et surestimées avec Alex. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que nous sommes disponibles sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, et à peu près toutes les plateformes imaginables de podcast. Et je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer d'épisodes, mais aussi pour favoriser la découverte. Parce que l'algorithme fait en sorte que à chaque plus qu'on a de likes, plus qu'on est trouvable dans le feed. Et je veux m'assurer que tout le monde puisse entendre la bonne nouvelle. Alors sur ce, sans plus tarder, on va aller jaser avec Alex.
Ouais, c'est ça, tu me disais que tu n'avais pas eu le temps de regarder toutes les questions, c'est ça?
Non, c'est, ben, j'ai eu le temps de regarder, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir vraiment. Ça a été parce que la semaine passée, elle arrive et elle me dit oh, ouais, comme JP va. Je vais contacter JP pour booker dans le calendrier. Puis là, c'est à 2h ce matin que j'ai vu que c'était booké pour. Ouais. Je suis comme ah, ok, ouais.
Ça s'est fait last minute. J'ai mis un peu de pression parce que j'étais comme hey, tu sais quoi, tu sais, genre, j'ai bien des podcasts comme en réserve, mais j'en ai pas qui pourrait sortir, mettons, la semaine prochaine encore au mois d'octobre, qui font du sens. Fait que j'étais un peu comme dans le trou. Fait que t'es comme, non, je t'arrange ça, je vais booker Alex. Mais tu sais, je pensais pas que ça allait genre comme débouler de même dans ton agenda, mais merci d'être là.
Ça m'a fait plaisir.
Je suis sûr que tu vas bien faire ça parce que c'était épique le lancement du Krypton, là.
Ah, ouais, à ce point-là.
Ton speech. Non, mais c'est parce que j'étais avec Max de la Gravel Mafia, puis un moment donné, on se regardait, puis on était comme, man, le gars, il connaît ses shit. Puis genre, tu sais, c'était comme, tout était genre livré parfaitement, le bon flow, les bonnes transitions. J'étais comme.
J'étais préparé aussi.
Ouais, ben non, mais ça paraissait qu'il y a de la préparation, mais ça paraissait aussi que tu connaissais ton sujet, là.
Ouais, j'ai pas le choix. C'est notre passion.
Ouais.
C'est ma job, c'est sûr, mais c'est ma passion pour commencer. Fait que tout ce qui est connaissance technique, tout ce qui est connaissance de l'industrie, c'est quasiment, c'est pas inné parce que c'est pas ça, mais tu sais, ça fait tellement longtemps que c'est acquis de mon côté que j'imagine que ça aide à passer d'un sujet à l'autre, faire des transitions, avoir plus de storytelling, mettons. Fait que,
ouais. Puis pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mettons, c'est quoi exactement ton poste chez Argon?
Donc, je suis directeur de produit.
OK.
En fait, product director en anglais, directeur du produit en français. Donc, mon rôle, c'est d'assurer la direction de tous nos produits chez Argon 18. Donc, la durée, comme l'intégration de nouveaux produits, la gestion des produits actuels, tout ça par leurs spécifications, les couleurs. Planifier aussi leur fin de vie parce que tout bon produit a une fin. C'est une industrie où toutes les choses changent à un rythme assez. Quand tu regardes ça de l'extérieur, on dirait OK, ben c'est correct, mais de l'intérieur, les changements se font quasiment aux 18 mois. Tu sais. Donc, comment suivre cette évolution-là? Comment planifier la fin de vie d'un produit actuel? Si besoin, comme ça fait partie de la stratégie et la planification. Donc,
très nice. Mais c'est vrai que c'est exactement ça que je voulais parler aujourd'hui dans le podcast. Fait que Eve, elle a vraiment bien sizé. En gros, tu sais, je voulais vraiment parler justement, tu sais, parce qu'on voit, mettons, des tendances qui piquent vraiment fort dans l'industrie, puis qui disparaissent vraiment rapidement, puis qu'après ça, tu as une autre tendance qui repique. Fait que c'est exactement ça que je voulais parler, parce que dans le fond, ce que je trouve fantastique, c'est la vitesse à laquelle les manufacturiers voient les tendances arriver. Puis j'imagine qu'il y a un peu de bête là-dessus, où est-ce que tu sais, comme, parce que tu peux pas sortir, tu sais, comme quand on voit toutes les gammes sortir en même temps, c'est que tout le monde a travaillé en amont dessus, tu sais. Fait que c'est pas genre, il y a pas tant de. Tout le monde voit les tendances venir puis les interprète à sa façon. Puis c'est ça, je trouve vraiment hallucinant dans le vélo versus l'automobile dans lequel j'ai travaillé, où est-ce que souvent, tu sais, mettons, une tendance va prendre beaucoup plus de temps à s'établir. OK, fantastique. Puis Mettons, on peut commencer par peut-être un segue. J'ai fait un podcast, mon premier podcast à vie avec Martin le sauteur. Puis c'était sur, dans le fond, le vélo post-COVID. Dans le fond, non, excuse, le vélo pendant la COVID. Fait qu'on parlait pendant la COVID de comment c'était tough de trouver des pièces, comment c'était tough de. Genre, je pense que dans ce temps-là, vous aviez bien, bien des frames, mais comme aucune
Pas de pièce.
composante. Puis c'était genre d'être créatif, de trouver des solutions. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, c'est quoi l'industrie du vélo post-COVID?
C'est drôle que tu parles de Martin parce que j'ai parlé il y a 10 minutes. Puis il dit, t'as-tu du temps? Non, je vais en faire un podcast avec JP. Puis j'étais comme, je suis pas mal sûr que c'est toi qui as fait son premier podcast il y a
Très
quelques
drôle.
années. Puis il se rappelait effectivement, puis on parlait de, c'est quasiment un pré-COVID ou pendant COVID, maintenant un regard un peu sorti de cette crise-là. Je dirais, qu'est-ce qui a changé le plus, c'est la disponibilité. Donc, autant au niveau des composantes, les frames, les vélos complets, il y a comme un niveau d'inventaire assez élevé dans l'industrie en général. Chez Argon 18, on a beaucoup d'inventaire encore, mais c'est pas hors de contrôle comme ça peut l'être. Surtout sur les manufacturiers de pièces wearables, comme tu sais, les chaînes, les pneus, qui ont eu une espèce d'expansion de la demande qui était, à l'époque, aurait dû être contrôlée. Mais en même temps, c'est comme personne ne voulait laisser les opportunités sur la table, donc ils acceptaient. Puis avec les cancellations de commandes, les reports de commandes, je pense qu'il y a un niveau d'inventaire au niveau des pièces et accessoires qui est relativement élevé en ce moment. Puis il y a des compagnies qui ont peut-être trop d'unités de vélo complet en stock puis qui ont inondé le marché. C'est ce qui est arrivé surtout en Europe. Donc on sent un peu les répercussions de ça, un ralentissement de la demande, ce qui est tout à fait normal. C'est la personne qui magasinait son vélo, mettons, JP, tu cherchais un bike. Tu t'en vas dans une boutique, t'es décidé sur tel vélo, puis là, tu te rends compte qu'il ne sera pas disponible avant 18 mois. Tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'en vas peut-être ailleurs, voir s'il y en a un. Fait que ta demande est. Ça se peut que tu fasses quatre boutiques. Fait que ta demande à toi est multipliée par quatre parce que à toutes les fois qu'il y a un point de contact, que tu laisses ton nom, cette personne-là place un PO avec nous. On se fait dire, OK, il y a une demande pour ce vélo-là, mais c'est la même personne qui cherche le même vélo quatre fois. Fait que c'est surtout ça qui est arrivé durant la COVID. Oui, il y a plus de nouveaux venus, mais il y a eu beaucoup de demandes triplées, quadruplées, qui n'ont pas été vraiment bien gérées par l'industrie en général. Je ne parle pas de chez Argon ou de chez une compagnie en particulier. Puis maintenant, on a un peu la répercussion de ça. Donc, comme un peu l'extension artificielle de la demande. Le fou, ça revient au même format, au même volume que c'était avant, mais l'inventaire est déjà en boutique, déjà en livre de distribution et maintenant chez les manufacturiers. Fait que je pense que c'est ça le plus gros changement. Puis on va sentir peut-être des compagnies qui vont sentir la soupe chaude, puis peut-être une guerre de prix là, qui s'en vient. C'est ça qu'on voit un peu d'un point de vue post-COVID. On est bien positionné chez Argon pour contrer ça, là.
Ouais, ben, très cool pour vous. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, que tout dans le fond, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui disait, genre, j'ai fait quatre boutiques pour essayer de trouver le bike. Puis en effet, tu sais, dans le fond, il y a probablement une corruption de la data à ce point de vue-là, comme qui a été entrée chez les manufacturiers quand ils ont planifié, quand ils ont fait leur forecast. Puis c'est vrai aussi que, tu sais, il y a plein de marques, disons, un peu plus obscures ou peut-être moins mainstream qui ont eu le vent dans les voiles. Puis je pense que, justement, eux aussi, leur forecast sur la demande a peut-être été un peu biaisé. Puis aujourd'hui, ils ont peut-être un peu moins je dirais, ouais, la bonne lecture. Mais une chose que je me demandais, tu sais, il y a eu beaucoup de monde qui ont acheté des vélos d'entrée de gamme au début de la COVID, puis il y a beaucoup de monde qui ont pogné la piqûre, puis je le vois vraiment dans Group Ride, tu sais, tu as du monde qui sont dans des vélos vraiment d'entrée de gamme, mais qui ont du power, puis qui parlent de s'acheter un nouveau vélo. Est-ce que vous voyez ça comme, vu que vous êtes une marque un peu plus haut de gamme, est-ce que vous voyez comme cette transition-là de gens qui désirent step up their game?
Ouais, clairement. Même à l'interne, ça peut paraître bizarre, mais on a eu quand même beaucoup de changements durant la pandémie. Tu sais, des nouveaux employés qui arrivaient qui ont vu l'opportunité de travailler chez la conduite, qui ont commencé à faire du vélo, soit avant d'arriver ou en arrivant, puis qui ont investi sur un vélo d'entrée de gamme. C'est drôle à dire, c'est un vélo à 3 000, 4 000 $, c'est dur, entrée de gamme. Ou même, tu sais, des fois à 2 500, c'est quand même un gros investissement. Puis tout d'un coup, c'est comme 2 ans plus tard, ah, il semble que je chercherais à changer parce que, oui, la piqûre, celui-là, c'est pas juste temporaire. On est bien positionné pour ce deuxième achat-là. Chez Argon 18, on est comme une. On est rarement le premier achat, c'est quelque chose peut-être qu'on veut changer. Essayer d'être le premier achat d'un cycliste ou du moins être dans les options pour ce premier achat-là. Mais au moins, on est très bien positionné pour quelqu'un qui connaît, qui commence vraiment à s'intéresser, à se renseigner, à chercher qu'est-ce qui est vraiment le plus adapté à ses besoins. C'est là qu'on rentre en jeu souvent. Puis qu'on a une offre qui répond à cette demande-là. Peut-être aussi pour ça qu'on est bien positionné en ce moment, qu'on sent moins l'impact de l'espèce de paralysie de l'industrie. Je ne sais
Ouais,
pas comment l'expliquer.
ralentissement,
C'est.
ouais, définitivement
Ouais,
ralentissement, ouais.
ouais. Ouais. Fait que c'est. Ouais, je pense que c'est une bonne analyse que tu as de la situation.
Ben, écoute, c'est juste, je trouve ça, le nombre de personnes qui ont changé de vélo cette année, mais que, tu sais, mettons, j'entends de tout bord de côté, tu sais, étant, mettons, aussi proche de bike shop que de marque, j'entends qu'un ralentissement, mais j'ai tellement vu de monde justement faire un deuxième achat upgradé. Fait que, tu sais, je me dis, il doit y avoir effectivement, tu sais, un certain segment qui continue d'évoluer, mais c'est certain qu'il y a eu aussi le segment, l'adoption a peut-être un peu plafonné parce
Ouais.
qu'il y a tellement de monde qui se sont mis à faire du bike en 2020-2021. Ma prochaine question, OK, celle-là, c'est probablement un hot take, OK?
Laquelle?
Tu sais, là, on parlait beaucoup du N plus 1 dans le temps. Il fallait que tu aies comme infini de vélos, puis même quand tu avais infini, tu en voulais un de plus. Moi, genre, je constate la mort du N plus 1, puis que les gens veulent comme un peu, je sais pas, l'anneau du Seigneur des Anneaux du Basic, tu sais, celui qui fait tout, là. Puis, est-ce que vous voyez ça, vous, dans l'industrie?
Je te dirais, c'est à deux vitesses. Il y a clairement ce besoin-là qui existe. Je te dirais, ça dépend de la démographie. Les zones urbaines, comme mettons Montréal, mais Montréal, c'est encore un cas un peu à part, mais les villes où est-ce que le real estate est très cher. Ou est-ce que, tu sais, exemple, tu fais un salaire moyen, puis il faut que tu t'achètes, tu loues un appartement à une pièce, parce que c'est la seule chose que tu peux te permettre de louer, mais tu peux acheter un vélo. Mais tu as aussi l'espace à considérer. Tu peux pas avoir 3-4 vélos. C'est pas juste une question de revenus, c'est une question d'espace, puis de temps aussi à pratiquer ton vélo. Un jeune professionnel qui travaille 50, 60 heures semaine, puis qui. C'est d'avoir 4 vélos, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que tu ne vas jamais les utiliser. Fait qu'il y a ce côté démographique-là, géographique aussi, qui rentre en ligne de compte. Ou est-ce que oui, tu as une tendance vers le N égale 1 et non pas le N plus 1? C'est un peu pour ça qu'on a sorti le Krypton, mettons, d'un point de vue all-road. Ben, tu as assisté au lancement, puis c'était un peu ça le message. C'est-à-dire que c'est ton vélo pour faire un peu de tout. Rien dans les extrêmes. C'est pas un vélo que j'irais dans une course en peloton, mais nécessairement, c'est pas adapté pour ça. Mais si tu veux participer, il y a rien qui t'empêche de le faire. Il est adapté quand même à ça. Si tu veux faire une course de gravel comme la Big Red, OK, ça se peut que quand il y a ben de la boîte, tu sais, t'as 40 de tire clearance, fait que tu mets un 38, t'as pas le tire clearance comme sur Dark Matter, mettons. Mais au moins, tu peux participer à l'événement et avoir un vélo qui est adapté à ça. Extrêmement d'avoir du fun. C'est le même bike avec deux utilisations. Jamais de la vie on aurait pensé qu'il aurait pu se faire avec le même outil. T'sais. Donc, on a pris cette approche-là, nous autres, en tant que manufacturier. Puis aussi sur la route, parce que c'était plus segmenté, c'était plus niché. Tu avais le aero bike, endurance bike, le bike de montagne super léger. Il y a 3 ans, on a fait le Sun, qui était un peu la. C'était l'anneau des Seigneurs des Anneaux. C'est le One Bike to Rule Them All. C'était la combinaison du confort et de la compliance qu'on avait sur le Krypton à l'époque. la légèreté du gallium pro, puis l'aérodynamisme du nitrogène, tout ça combiné en un vélo. Fait qu'on éliminait quasiment trois vélos, le besoin de trois vélos en un. Donc, c'est une approche qu'on a déjà prise. Ça remonte à, tu sais, si on monte au début du développement du SUN, ça fait 5 ans. Donc, c'est une tendance qu'on voyait, qui arrive maintenant aujourd'hui sur le hard road, sur le gravel, sur la route. Mais en même temps, il y a comme une nouvelle tendance qui se déclenche, puis c'est la resegmentation. Comme on sent les gens qui veulent avoir l'outil pour ce besoin bien spécifique. Fait que c'est de savoir comment à qui on s'adresse avec quel type de produit. Moi, je crois vraiment à la combinaison, comme le SUM, c'est un vélo que je trouve qui est actuel et qui est future-proof pour encore plusieurs années. Parce que tu es rendu à un poids où est-ce que de couper 100 grammes, d'essayer de couper 100 grammes dessus va tellement le limiter d'un point de vue aérodynamique, mettons, que ben aussi bien juste faire un climber bike. Mais il va pas être plus rapide. Donc, on est un peu à cette croisée des chemins-là où est-ce que, selon moi, c'est le vélo de course idéal pour tout type de conditions. Mais pour ceux qui cherchent comme un spécialiste d'aéro ou de lightweight, c'est pas quelque chose que nous, on offre en ce moment. Mais on sent la tendance qui revient petit à petit dans le marché. De voir où est-ce que ça s'en va, là.
C'est drôle parce que tu t'as nommé, dans le fond, les deux exemples que j'avais en tête quand je t'arrivais avec cette question-là, parce que moi, je veux vraiment un SUM depuis longtemps parce que, tu sais, je sais pas, c'est tout ce que j'aime, tu sais, il y a le côté aéro, comme tu disais, puis il y a le côté lightweight, puis, tu sais, c'est vraiment exactement, je pense, un besoin que j'avais, puis, tu sais, c'est peut-être aussi, je pose la question, peut-être parce que c'est moi qui cherche ça, avoir de moins en moins de bikes. Mais non, c'est ça, le SUM, j'étais comme c'est parfait, il y a tout, qu'est-ce que je recherche. C'est quand tu vas faire un group ride sur le plat, t'es quand même aéro, mais t'sais, comme quand tu grimpes, t'es pas trop désavantagé. Puis l'autre, c'était justement le Krypton, t'sais, à Big Red. T'sais, t'as nommé Big Red en disant que ça c'était probablement plus tough parce que c'était maximum 38, mais en même temps, je regardais cette année, il y en avait tellement du monde qui avait justement le Krypton. À ligne de départ, que je me disais, ça doit pas être si pire, tu sais. Puis c'était des conditions vraiment désastreuses cette année pour ce type de bike-là. Puis je veux dire, il y a personne qui a DNF. Fait que, tu sais, il y a. Ben, en
Il a
fait, il y a
dépassé pour ça, tu sais.
sûrement du monde qui ont DNF, mais je veux dire, il y a personne que je savais qui prenait le départ avec ce bike-là qui a DNF.
Non, c'est ça, puis c'est pas. C'est parce que ça a été pensé pour ce type d'utilisation-là. C'est des choix bien. On a pris des décisions avec ça en tête. Fait que. Non, c'est clair que le but, c'était d'avoir un outil qui était. Quand je dis un outil, un vélo. Mais qui te permet quand même de passer à travers des courses de gravel qui sont dans des conditions atroces. Mais qui reste un bike super le fun à rouler sur la route. Fait que c'était vraiment comme, OK, comment est-ce qu'on crée ce vélo polyvalent-là? Donc, encore vraiment cette approche-là. Puis pour le SUM, c'est drôle que tu en parles parce que c'était un peu. Tu sais, t'es la démographie dont je parle. T'es un jeune professionnel, t'es occupé, t'as un job qui demande tout ton temps, t'as une famille, t'as de la place pour X, Y choses dans ta maison, puis un vélo, ben, t'as de la place pour peut-être deux vélos, pas plus que ça. Puis c'est exactement comme, OK, ton besoin, c'est quoi? C'est d'avoir du fun sur le bike dans tout type d'environnement, pas juste être le plus rapide sur un stretch à 65 km/h en sprint final. Fait que le SUM répond vraiment à ce besoin-là. Souvent, c'est l'industrie pense en fonction de qu'est-ce qui va être gagné sur le Tour de France. Qu'est-ce qui va permettre de gagner le Tour de France? Nous, on n'est pas sur le Tour de France. On est avec des équipes professionnelles qui ont un besoin de performance élevé. Mais notre consommateur principal, c'est notre client principal, c'est le consommateur qui achète le vélo. Tandis que certaines, des fois, on voit le vélo comme étant l'outil qu'un professionnel utilise. Non, c'est l'objet que toi puis moi, on achète. Toi puis moi, on roule dans des group rides à Montréal où est-ce que c'est chaotique, ça te prend un certain niveau de confort, ça te prend un vélo qui a plus de polyvalence qu'une race machine exclusivement. Ça peut l'être, mais c'est pas c'est pas le use case principal de cette bike-là, t'sais. Fait que c'est de garder ça en tête quand on planifie un projet.
Parfait. Puis parlant de planification de projet, c'est une des questions. On a parlé du SOM. Il y a eu quelques autres brands qui ont sorti à peu près la même année ou dans les 6 mois d'intervalle un bike aéro léger, lightweight aéro. Il y a eu le tire clearance. Tout le monde s'est mis à faire du tire clearance puis à avoir des bikes un peu plus comme le Krypton quasiment en même temps. Puis tu sais, c'est des tendances que. C'est sûr qu'il doit y avoir des leaks dans l'industrie, mais tu sais, je veux dire, c'est des tendances qui arrivent à des moments de planification en amont d'un certain temps. Puis il faut vraiment, tu sais, pour vous, tu sais, c'est pas comme claquer des doigts, avoir un moule, etc. Tu sais. Fait que je me demande, c'est quoi, mettons, comment vous vous adaptez, puis c'est quoi le time frame pour penser un vélo?
Ouais, OK. Pour répondre à ta question de time frame, tu sais, c'est à peu près 2 ans de développement. Ça peut être moins que ça, mais disons, de l'idée principale jusqu'à comme un client qui a le vélo entre les mains et qui peut aller pédaler, commercialement disponible, c'est à peu près 2 ans, incluant c'est les temps de transport, les temps de. Donc, c'est quand même assez important comme durée. Donc, pour répondre à ton autre question qui est comment est-ce qu'on arrive tout à peu près en même temps à la même place, puis que toutes les compagnies semblent être alignées, c'est qu'il y a quand même il y a du partage dans l'industrie, même si ce n'est pas du partage formel. On est des manufacturiers de cadres, puis on parle tous à peu près au même fournisseur de composantes, de roues, de pneus. Puis c'est souvent des bribes d'informations qui sont récoltées à gauche et à droite en parlant aux mêmes personnes, à des personnes différentes, mais quand tu as le même écho du marché, tu as le même écho de ton consommateur, de la niche qui est souvent dans des bespoke bike frame, qu'il y a des niches qui explosent, puis du coup, il y a excuse-moi l'anglicisme, mais early adopters, c'est des gens qui, tout d'un coup, ils embarquent là-dedans, puis ils font de cette niche-là une niche un peu plus populaire. Ah, souvent, c'est des indications, quelque chose qui. Des petits balbutiements de ça, puis ça va exploser, ou des fois, ça n'explose pas, puis c'est une fausse alerte. Donc, c'est de tout le temps être à l'affût. Je pense que c'est le plus important. C'est de se dire, vu qu'on sait que ça prend entre 1 an et demi et 2 ans à produire, faut être sûr de capturer ces premiers signes-là le plus tôt possible. Mais en même temps, ça fait partie de notre quotidien. Il y a des gens qui sont là pour ça, pour observer ces tendances-là, être sûr qu'on les capture, puis être sûr qu'il y a une raison d'être. Il faut que ça se tienne tout seul comme produit. On ne peut pas juste le faire parce que ça nous tente de le faire. Ça prend quelqu'un, au final, qui va l'adopter, qui va l'acheter, qui va l'utiliser, qui va l'aimer. T'sais. Fait que c'est temps d'essayer de se projeter dans ce sens-là. Puis il y a des choix à faire, mais pas tout faire en même temps. On est trop, surtout chez Argonne, ça a l'air peut-être immense à l'extérieur. Je ne sais pas c'est quoi la perception vraiment, mais tu sais, t'es venu, tu as rencontré l'équipe. On n'est pas 20 ingénieurs qui travaillent à temps plein sur. Tu sais, on est une petite équipe qui, si on prend 2 projets en même temps, c'est déjà bon. Donc, on essaie d'être le plus rapide dans les premières étapes pour être sûr qu'on va en carrière. Oui.
Ah, c'est fou, pareil. Non, mais c'est. Ben, tu sais, moi, je suis un gars de marketing. Fait que, tu sais, moi, j'arrive avec un produit, puis genre, je le positionne dans le marché. Mais, tu sais, tout cet aspect-là d'avoir la boule de cristal, tu sais, dans ma tête, c'est comme la magie noire parce que, tu sais, parce que oui, tu sais, t'as les early adopters. Puis, tu sais, là, tu m'en parles, puis je trouve que ça fait du sens comme recherche, puis, tu sais, les data points. Mais, tu sais, on était tellement pas au niveau du Krypton. Là, 2 ans, tu sais, comme on était encore beaucoup dans le tu sais, pré-pandémie, on était encore beaucoup dans le N plus 1, là, tu sais, genre le nombre d'amis que j'avais, même à Montréal, qui avaient des bikes partout, puis qui étaient comme, je veux un bike urbain, j'en veux deux, trois, etc. Puis, tu sais, comme, C'était hallucinant dans ma tête de penser qu'on serait rendu là post-pandémie. Après ça, même chose pour le lightweight aéro. On était tellement dans le N plus 1 que dans ma tête, c'était comme. Quand j'ai vu ça arriver, j'étais comme, waouh, ça m'en prend un. Mais après ça, j'étais comme. Pré-pandémie, tu m'aurais dit ça, puis j'aurais été comme, what? Mais tu sais, c'est certain qu'encore là, je suis plus influencé par le marketing, qu'est-ce qui est sur le marché présentement, que d'être en amont avec les early adopters. Fait que probablement que c'est genre juste un billet, mais sur le coup, tu sais, comme, je trouve ça fascinant. Tu sais, comme tu as commencé en disant 2 ans, j'étais comme, c'est impossible. Puis après ça, tu sais, comme ton explication fait vraiment beaucoup de sens.
Mais c'est là le challenge, parce que mettons, on prend une direction qui, tu sais, toutes les data points pointent vers cette direction-là. C'est ça que ça devrait être. Comme le crypto, mettons. Tu sais, moi, il y a 2 ans, tout disait, c'est là qu'il faut qu'on s'en aille, même si ce qui était communiqué dans l'industrie publiquement, c'était, ah, achète un autre bike spécialisé dans X, Y, Z. Nous, on voyait comme une consolidation dans ce segment-là et non pas une divergence. On voyait que ça revenait vers un vélo pour plusieurs usages. Mais si l'industrie avait continué à pousser le one bike comme un vélo pour un usage, puis quand je parle de l'industrie, je parle des géants de l'industrie. Comme on est qui, nous, pour arriver puis dire, non, c'est pas ça que ça prend. Donc, il y a aussi un élément un peu de, pas de chance, mais de timing. Donc, il faut que tu arrives au moment où est-ce que l'industrie est prête. Ou si tu arrives et l'industrie n'est pas encore prête, mais il faut peut-être la machine marketing derrière pour vraiment faire passer ton point. Fait que, tu sais, c'est drôle que peut-être tu prends l'aspect marketing, comment ils sont positionnés, mais il y a des compagnies qui dictent un peu où est-ce que l'industrie s'en va. Chaque compagnie a son mot à dire, mais t'en as qui sont clairement plus. Qui ont encore un peu plus de poids,
Influence,
donc
ouais, qui ont
un
encore
peu
plus
plus d'influence.
d'influence.
C'est pas juste qu'on tombe souvent. Faut que tu arrives en même temps qu'eux autres dans le même. Ça, ben, si tu arrives un peu à contre-courant, ça peut être une forme de marketing également. T'sais, si on va à contre-courant, ça peut être très positif également. C'est un élément différenciateur.
Faut juste aller les. Ouais, faut, ben c'est exactement ça. Faut que tu ailles les reins solides puis un solide marketing pour aller vraiment à total contre-courant. Mais après ça, tu me dis tout ça, puis ça me rappelle un mème que j'ai vu, puis c'est genre. Je pense que c'était comme. C'est Surly, puis autour de la table, tu as tous les géants de l'industrie dont tu me parlais, que je nommerais pas, puis qui regardent Surly, puis qui sont comme, OK, on va copier ce bike-là cette année. C'est comme. J'étais comme, c'est vrai qu'ils partent d'une niche, c'est exactement ça, ils partent d'une
C'est
niche.
exactement ça.
Qu'est-ce qui pogne là-bas? OK, on va en faire un en carbone, puis on va rendre ça mainstream, tu sais. C'est quand même drôle. Parlant
Mais
de
je te dirais que
tendance,
dans
oui.
certains cas, ça ressemble comme. C'est une très bonne illustration de qu'est-ce qui se passe dans l'industrie en général. Tu vois, c'est OK, on tape sur ce clou-là aujourd'hui. On dirait que c'est ça qui se passe, tu sais. Mais ouais.
Puis, dans le fond, on a parlé de tendance. C'est quoi la tendance actuelle la plus sous-estimée selon toi, puis pourquoi?
Sous-estimé. Toi, c'est les questions que j'aurais dû auxquelles j'aurais dû penser avant. Je pense que tu me diras si c'est sous-estimé ou pas, là. C'est selon mon point de vue, tu sais. Le monoplateau en route et all-road, je pense vraiment que c'est sous-estimé. Je crois vraiment à cet apport-là. Par la simplicité, ce que ça permet de faire en termes de design pour surtout un nouveau all-road. Puis, surprenamment, d'un côté route hyper performance, il y a beaucoup de gains à avoir un monoplateau adapté, bien sûr, au type de terrain sur lequel tu vas finir par parcourir. Parce qu'en montagne, il n'y a rien qui va battre le développement d'un double plateau pour l'hyper rapide en descente, puis avoir une low gear pour la montée, tu sais. Mais sur la plupart des terrains qu'un coureur amateur va sur lequel il va se retrouver dans une course FQSC, mettons, monoplateau fait beaucoup plus de sens que qu'est-ce qui peut être pensé initialement. C'est déjà adopté en gravel, quand même largement adopté. Même de ce côté-là, il y a encore un peu de pushback. Donc, ouais, je pense que ce serait peut-être la première chose que vous diriez, c'est sous-estimer à mes yeux.
Ben, je
Je pense
pense
que tu
des
en penses, là.
ben, je pense des accords parce que j'ai déjà eu, tu sais, j'ai fait Montréal-Québec un moment donné avec un bike monoplateau. Puis, tu sais, je
Ouais.
veux dire, c'est bon, OK, c'est sur le plat, mais tu sais, je veux dire, je l'ai quand même fait à, je pense, 33, 34 de moyenne. Fait que, tu sais, comme il y avait des moments où, tu sais, j'ai jamais manqué de gear. Il y en a qui disent que
Ouais.
moi, mais tu sais, le problème, je pense que c'était comme 44-11. Tu finis par en manquer, puis j'étais comme, pour vrai, j'en ai
Ouais.
pas manqué, c'était tout allait bien. Puis après ça, tu sais, à contrario aussi, tu sais, je pense qu'avec le 12 vitesses, ben, tu sais, il n'y a pas de problème. T'as pas, parce que, à contrario, tu sais, les gens disaient, ouais, puis où tu vas manquer de vitesse, tu sais, comme tu n'auras jamais le
Ouais,
bon ratio, mais en même temps, avec le 12 vitesses aujourd'hui, tu sais, si tu as une plate qui est à mi-chemin entre les deux, tu es quand même capable d'aller chercher des ratios intéressants sans nécessairement qu'il y ait des gros skips entre chaque.
puis tu sais, mettons sur l'Explore, comme la cassette, c'est sûrement celui que je connais le plus, là. L'Explore de SRAM, la cassette est vraiment divisée en deux. Tu as vraiment l'impression qu'il y a un climbing block, puis un bloc pour le plat, tu sais, fait. Ouais, pour vrai, de ce côté-là, je pense vraiment que c'est sous-estimé. En même temps, peut-être que c'est sous-estimé parce que pendant plusieurs années, c'était pas adapté vraiment. Mais là, on le voit un peu plus, même l'équipe Jumbo-Visma qui fait beaucoup de marketing avec SRAM. C'est tant la dernière étape du Grand Tour, hein. Ils vont pas le faire dans une étape de montagne décisive, mais la dernière étape où est-ce que le classement général est plus à jouer, et tout d'un coup, ah, tu vois un one-by. Ou sur une classique hyper plate comme Paris-Roubaix, tu vois Wout van Aert qui avait un one-by, Christophe Laporte également. Malheureusement, les deux ont eu des flats qui leur ont coûté la course, c'était pas le plateau qui a été le problème. Mais tu vois, comme ils essayent un petit peu plus, puis effectivement, pour plusieurs applications, je trouve que c'est un. Quelque chose qui est sous-estimé en ce moment.
Puis de l'autre côté, qu'est-ce qui serait surestimé à tes yeux?
C'est ça qui est, pour moi, qui est très dur à dire parce que je ne vais jamais comme dire qu'une trend est sous-estimée, est surestimée. Parce qu'il y a tout le temps, il y a tout le temps un. Il y a tout le temps quelqu'un pour. Comme ça n'existerait pas, ce serait pas commercialisé s'il n'y avait pas quelqu'un qui en avait besoin à un moment donné à quelque part. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à répondre à cette question-là. Peut-être une trend qui est surestimée d'un point de vue marketing, c'est le bikepacking. Comme tu sais, le dire, ah, oh, bikepack, oui, je pense que c'est un peu trop moussé. comme l'industrie en général, parle beaucoup de bikepacking, mais très peu de gens l'ont vraiment fait ou le font vraiment comme une activité régulière. Fait que c'est peut-être quelque chose que tu sais, les réseaux sociaux poussent un petit peu trop loin, selon moi. Même si moi, je suis un pratiquant, je sais que tu en fais. Mais en général, comme le commun des mortels, le commun des gens, des cyclistes, ne fait pas ça, n'est pas intéressé par ça. Mais ils veulent en entendre parler. Fait que c'est un peu là où est-ce que ça se. C'est peut-être surestimé d'un point de vue pratique, mais d'un côté storytelling, c'est vraiment intéressant que ça existe et que ce soit démontré. Mais ouais, je pense que c'est vraiment peut-être la trend qui est le plus surestimé d'un point de vue marketing en ce moment.
Ouais, mais non, mais c'est vrai que la quantité de monde qui en font réellement est très faible, tu sais, comparativement. Puis, tu sais, je veux dire, suffit d'aller dans un camping bienvenue cycliste pour te rendre compte que ben, il n'y a pas tant de monde que ça. Ou peut-être que c'est moi qui a pas été assez wild puis qui a pas été genre me sacrer dans un champ assez souvent. Mais non, c'est vrai qu'il y a, il y a comme. C'est probablement le tip of the iceberg, mais que d'un point de vue contenu, c'est que même moi, quand je fais du contenu de bikepacking, que ce soit genre aller avec mon fils en camping ou que ce soit quand j'ai traversé la Suède, tu sais, c'est des
Ouais.
contenus qui pognent énormément parce que comme quelque chose de romantique de dormir
Ouais.
avec les tiques dans un buisson, puis de. Ouais, c'est ça. Fait que, puis de manger qu'est-ce que tu es capable de
De
trouver, puis.
trouver, ouais. Puis tu reviens de là-bas avec une facture de nourriture qui fait aucun sens parce que ça coûte une fortune.
Ouais, non, mais c'est ça. Ça coûtait une fortune, puis au final, tu sais, j'arrivais pas à lire rien. Tu ramasses d'affaires au restaurant, t'as comme des frites, puis du poisson, du saumon fumé, là, t'es juste comme, man, qu'est-ce que je vais faire avec ça? OK, puis la dernière question que j'avais, c'est selon toi, c'est quoi le futur du cyclisme? Qu'est-ce que vous voyez dans le fond dans votre boule de cristal chez Argo 18?
T'sais, sans dévoiler des secrets
Ouais.
de l'industrie, c'est dur de répondre à cette question-là, mais il y a une tendance qu'on voit de plus en plus, puis c'est l'intégration de technologies. Tu sais, quand je parle d'intégration de technologies, c'est pas juste de l'informatique, là, t'sais, c'est pas ça nécessairement, mais c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher de la technologie, soit matériaux, d'un point de vue fit et biométrie. Tu sais, comment est-ce que l'être humain interagit avec la machine? Oui, l'intégration de technologies comme de hard tech, là, comme de l'électronique, puis du data, puis tout ça. Tu sais, je vois un peu l'industrie qui s'en va vers ça. En même temps, on est déjà un peu positionné là-dedans avec Nocio, c'est notre aéromètre. Puis, c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être un peu plus une tendance à regarder ça de ce point de vue-là. Mais clairement, c'est juste le e-bike, c'est le premier exemple de qu'est-ce qui est possible d'être fait quand tu commences à intégrer de la nouvelle technologie dans un mode de transport ou un outil de sport. C'est quand même assez intéressant les avenues qui s'ouvrent à nous. Tu as l'exemple Classified, je ne sais pas si tu connais
Ouais.
c'est le genre d'innovation technique, technologique auquel, tu sais, qui montre que l'industrie va dans un certain type d'intégration, mais que ce n'est pas encore adopté par tout le monde, c'est pas
Ouais.
standardisé. Puis je sais que les standards dans l'industrie du bike, ça ne dure pas longtemps, là. Fait que
Ouais.
c'est.
Ça part dans tous les sens. Puis je sais aussi qu'il y a des gros freins. Puis je pense que c'était quelque chose qu'on avait parlé avec Martin lors du premier, si je peux l'appeler Martin, lors du premier podcast, tu sais, c'était dans le fond, il y avait beaucoup d'idées sur la table, mais beaucoup de freins, parce que tu sais, il y a déjà une batterie, c'est un DI2, puis cette batterie-là, tu peux pas la jumper, tu sais, tu peux pas l'adapter à ta technologie. Fait qu'après ça, tu sais, c'est de
Exactement.
faire des choix, puis non, c'est ça, je pense que ça a l'air. C'est ça. Ce qui était revenu lors de notre première discussion, c'était les standards et les limitations par les fabricants de composantes. Puis dans le fond, j'imagine que c'est encore ça parce que un fabricant de composantes n'a aucun intérêt à ce que vous alliez créer votre propre chose alors qu'ils pourraient le créer eux-mêmes puis faire plus d'argent encore. Fait que tu sais, j'imagine que c'est
Exact.
un débat. Puis si vous partez avec quelque chose, eux, ils peuvent le standardiser. Puis après ça, fait que non, c'est ça. Ça doit être extrêmement compliqué.
T'as mis le doigt exactement sur les contraintes principales à cette innovation-là. Mais en même temps, c'est là qu'il y a des partenaires dans l'industrie qu'on peut trouver puis qu'on trouve qui ont à gagner à collaborer avec nous, mettons. Fait que c'est là la beauté de la chose, c'est que on voit ça de l'extérieur, puis ça a l'air d'être quasiment un monopole de certaines compagnies. Mais il y a d'autres, comme il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres dynamiques en jeu. C'est pas juste qu'est-ce qu'on voit publiquement. C'est vraiment, c'est une industrie qui a un arrière-scène qui est quand même assez vivant. C'est
Ouais.
tout le temps garder l'œil sur. Oui, qu'est-ce qu'on voit publiquement, mais surtout qu'est-ce qui se parle, puis qu'est-ce qui se dit en arrière-scène.
Ouais.
Ouais, il suffit d'avoir les bons contacts.
Non, mais il y a plusieurs. Tu
Ouais.
sais, tu parles d'arrière-scène, puis je pense que de plus en plus, on voit les géants qui avaient des quasi-monopoles avoir peur des up-and-comers. Parce que, tu sais, mettons,
Ouais.
tu retournes de là 10 ans, tout le monde avait un Garmin. Aujourd'hui, tu as Wahoo, tu as
Exact.
Hammerhead, tu sais, t'en as plein
Ouais.
des. Puis ça fait en sorte que j'imagine que c'est dans le c'est dans l'esprit. Puis après ça, tu sais, les trainers, c'était la même affaire. Tu avais juste des taxes avant. Puis là, aujourd'hui, t'as plein de. T'as une grande diversification des options. Fait que tu sais, comme juste les dérailleurs. Combien de personnes on se sont dit récemment, genre un micro-shift, ça pourrait faire la job sur un bicycle d'entrée de gamme. Fait que tu sais, comme ça, c'est toutes des marques qui viennent puis qui grappillent tranquillement pas vite des petites sections de l'industrie. Fait que tu sais, j'imagine qu'effectivement, tu sais, justement, dans une vision à long terme, s'associer avec des joueurs dans le background, ça doit être extrêmement payant parce que tu sais qu'il y en a qui vont sortir du lot tôt ou tard.
C'est assuré. Mais tu as mis le doigt dessus, c'est dans le long terme. Parce que c'est autant, ça, je te dis, ça prend 1 an et demi, 2 ans à sortir un produit, c'est notre produit à vendre tout de suite, mais on contrôle pas qu'est-ce qui se passe d'un point de vue composante, les roues. Quoi que les roues, ça reste que c'est une roue, c'est rond, ça a des rayons, puis un moyeu. Ça reste relativement simple. Mais les autres touchpoints sur le vélo, on contrôle pas ce qui se passe là-dessus. Puis c'est souvent mappé 5, 6 ans, 7 ans en avance par ces manufacturiers-là. Donc, c'est des changements qui sont planifiés à une vision à très long terme. Alors que nous, on est quand même plus rapide dans ce qu'on peut faire. Donc, on peut être plus réactif. Puis déjà, si on voit quelque chose qui s'en vient dans 5 ans, mais planifié pour ça, même si dans le cas actuel, on n'a pas besoin. Donc, ouais, c'est de se garder à l'affût.
Très cool.
Ouais.
Ben, hey, je te remercie pour ton temps. Je pense que c'est ce qui va conclure notre épisode, qui risque d'être un des plus longs de la saison.
Ah ouais, ok. T'as pas trop de coupe de
Non,
montage à faire ou
j'ai aucun montage à faire à date. Puis on est rendu à quasiment 42 minutes. Donc, non, c'est
ouais.
ça, c'est drôle. Fait qu'avec l'intro, l'outro, non, ça risque d'être un des plus longs de la saison. Au grand plaisir des gens qui se plaignent que c'est pas assez long. Tu sais, c'est tough d'arriver avec le juste milieu de longueur parce que les gens s'embarquent dans un podcast généralement pour 1 heure-ish, 45 minutes, 1 heure, puis d'avoir le bon, tu sais, balan. Pas juste filer du temps, mais non. Ben, tu as été un très bon invité de podcast. Puis ben ça, je sais que je discutais justement avec Ève, qui est notre courroie de transmission entre nous deux, de faire un épisode de début de saison l'année prochaine. Puis justement, tu sais, parler justement
Parfait.
des différents types de bikes. Parce que la géométrie puis les types de bikes intéressent vraiment les gens. Puis peut-être qu'à l'occasion, je vais me déplacer dans votre showroom pour discuter de tout ça.
T'es toujours le bienvenu, tu connais l'adresse, puis
Je connais l'adresse, puis la dernière fois, j'ai même découvert la machine à café. Puis je me faisais des cafés, puis que j'étais très à l'aise dans vos bureaux.
Fais juste nous dire,
Ouais,
drop
c'est ça,
quand
je vais
tu
vous
veux,
prévenir d'avance.
puis on va t'organiser quelque chose. Puis effectivement, comme merci pour l'intérêt que t'as porté à Rayon 18. Et que tu continues à porter à la compagnie, puis si tu as n'importe quelle question, n'hésite vraiment pas à me contacter, puis
Fantastique.
on va faire ça.
Bon ben, un gros, gros merci.
Merci
À
JP, passe
bientôt,
une
ciao.
bonne fin de journée.
Toi aussi, bye.
Salut.
Merci d'avoir écouté l'épisode. Ce fut encore un plaisir d'enregistrer ce podcast avec Alex. Si vous avez des suggestions de podcasts, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires ou à m'écrire un petit DM sur les médias sociaux. Avant de se quitter, je vous réinvite à liker le podcast ou vous abonner sur le podcast sur une des plateformes Spotify, Amazon Podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts ou toutes sortes de plateformes ou votre plateforme préférée. Je vous dis à dans 2 semaines. Sur ce, merci. À bientôt.